Fréquence Mistral.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour un nouveau numéro de 100% Foot spécial Europe. Cette semaine, on va évoquer toute l'actualité de la Coupe d'Europe, grande semaine européenne qui s'est achevée hier avec, on connaît le dernier carré, les demi-finalistes dans toutes les compétitions européennes. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je ne suis pas en compagnie de Titi, malheureusement il a eu un petit souci qui fait qu'il ne peut pas être parmi nous cette semaine, mais j'ai deux invités pour le prix d'un en la personne de David et Hugo qui nous font l'amitié d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour David, bonjour Hugo.
Bonjour tout le monde.
Voilà, on salue bonjour. Tous nos auditeurs et voilà, pour les auditeurs de Fréquence Mistral, c'est David et Hugo sont des amis qui viennent spécialement de Brive et voilà, pour suivre l'Olympique de Marseille régulièrement et qui connaissent très bien le football. Donc ils vont être parmi nous pendant cette petite heure où on va évoquer l'actualité du foot européen. Et on va démarrer de suite cette émission avec les championnats européens, voilà, et la première ligue de championnat d'Angleterre. D'abord avec les débuts de Roberto De Zerbi sur le banc de Tottenham. Qu'est-ce que ça vous inspire, messieurs? Et première défaite pour le tacticien italien après son départ de l'Olympique de Marseille il y a 2 mois et demi.
Oui, alors bon, c'est vrai que bon, mis à part son premier passage déjà à Marseille il y a 3 mois, c'est vrai que bon, il s'engage dans le challenge qui n'est pas forcément...
Un peu plus près du micro.
Qui voilà. N'est pas forcément le plus adéquat pour lui. Bon, c'est vrai que bon, malheureusement, il a déjà fait un premier match qui s'est traduit malheureusement par une première défaite. Donc du coup, s'il retrouve son équipe dans la zone rouge... Après, bon, on sait que c'est un entraîneur qui aime les défis, c'est pour ça qu'il était venu à Marseille, donc bon, je ne me fais pas de soucis pour lui, mais au vu de son style de management, ça restera à voir par rapport à la situation qui est en jeu. Oui.
Voilà. Parce que là, avec cette défaite, Tottenham glisse dans la zone rouge et est passé de la 17e à la 18e place, voilà, à 2 points seulement de West Ham, qui est première équipe non relégable. Donc vraiment... des débuts compliqués, ça va être une mission périlleuse pour Roberto De Zerbi pour sauver cette équipe des Spurs Tottenham. Mais ce serait un cataclysme si cette équipe descendait en championship. David ?
Oui, je pense que Roberto n'a pas le profil pour prendre un club à quelques matchs de la fin qui joue le maintien. Il faut plus un pompier de service qu'un entraîneur qui veut appliquer... sûrement des belles méthodes pour faire le beau jeu et tout ça. Il faut sûrement quelqu'un de beaucoup plus efficace pour sauver un club historique, les Spurs, qui n'étaient pas long, il n'y a pas longtemps en finale ou qui ont gagné l'Europa League.
Et oui, l'année dernière, ont gagné l'Europa League qui leur a permis de participer à la Ligue des Champions cette saison en phase régulière. Voilà. Et c'est quand même le troisième entraîneur que les Spurs de Tottenham... usent sur leur banc hein, cette saison hein, avec Thomas Frank, l'entraîneur danois qui était à Brentford la saison passée, Igor Tudor qui a fait un bref passage de même pas 2 mois, voilà, avec 43 jours, et là Roberto De Zerbi est arrivé durant la dernière trêve internationale.
Donc si après l'OM et en plus il enchaîne par une relégation d'un club qui n'a pas dû connaître la deuxième division depuis je ne sais pas combien de temps, c'est pas très bon pour son CV.
Après aussi, bon, ce qu'il faut noter, c'est que De Zerbi, c'est quelqu'un qui a un style de jeu aussi qui a très bien réussi avec Brighton. C'est un style de jeu aussi très spécial qui compte surtout sur la pression des adversaires. Donc bon, sachant que même aussi quand il était à Marseille, on a bien vu que vers la fin, il cherchait surtout des joueurs du championnat anglais. Là, bon, on pourrait dire limite qu'il est revenu à la maison. Donc bon, il y a certaines étoiles qui sont alignées, mais c'est vrai que le contexte ne lui ressemble pas vraiment quoi, pour le moment.
Il avait la volonté de revenir en Angleterre et en Première Ligue, lui qui a excellé. Et justement, tu fais bien de parler de Brighton, puisque la transition est tout trouvée. Le premier match à domicile pour Roberto De Zerbi, ce sera demain soir, samedi à 18h30 au Tottenham Stadium, justement contre son ancien club de Brighton. Voilà, les Seagulls de Brighton, actuellement 9e de Première Ligue, à 16 points du leader Arsenal.
Oui, donc bon, je pense que vu que c'est un peu le ventre mou, donc bon, je pense que Tottenham, en plus, on va dire un peu avec la magie des premiers matchs de De Zerbi, peut-être qu'il pourrait au moins marquer un coup fort pour ce début-là. En plus, c'est face à un ventre mou du championnat, donc normalement, il y a de quoi faire un succès de son côté, normalement.
Et à remarquer quand même qu'il n'a pas signé pour rien à Tottenham, hein. Il prend un contrat de 5 ans.
Ouais, un contrat de 5 ans avec un salaire doublé par rapport à ce qu'il touchait à l'Olympique de Marseille.
En plus.
Voilà. Donc,
on ne va pas le plaindre.
Bon, après, on sait que le président Lévy à Tottenham, c'est un président qui donne des gros salaires. Et puis bon, là, pour sauver son club, il est prêt à toutes les folies sur l'arrivée d'un technicien étranger. Donc,
après, c'est fait une différence de salaire entre Tudor et De Zerbi, il me semble. Parce que je me rappelais que Tudor, quand il était à Marseille, c'était un salaire vraiment très minime. Alors que lui, De Zerbi, il a directement...
Bon, après, je n'ai pas regardé le salaire que Edouard Tudor touchait lors de son passage à Tottenham ces dernières semaines. Mais bon, c'est vrai que là... Voilà, on va enchaîner toujours avec le football anglais, la Premier League, et sur le succès de City 3-0 avec un grand Ryan Cherki, voilà, de hauteur de deux buts, deux passes décisives pour Matt O'Reilly et Guy, voilà, les deux premiers buteurs. Voilà,
c'est vrai que Ryan Cherki, c'est vraiment un peu l'homme fort. Un peu aussi depuis un peu la mi-saison à Manchester City, c'est quelqu'un un peu qui vole vraiment sur le terrain, même si bon, il y a un peu certains moments un peu où sa concentration l'échappe, mais sinon franchement ce qu'il fait actuellement c'est très grand, Ryan Cherki. Ouais.
Il porte son équipe et probablement peut-être vers les sommets et le titre de champion, puisque on sait qu'il y avait 9 points de retard, et là avec cette victoire sur la pelouse des Blues de Chelsea, ils reviennent à 6 points de Arsenal, qui dans le même temps s'est incliné à la maison face à Bournemouth 2-1. Donc une bonne opération, en sachant que là, le week-end prochain, il y aura un Manchester City-Arsenal qui se disputera dimanche à 17h30 sur la pelouse de l'Etihad. Et les citizens de Pep Guardiola ont aussi un match en retard à disputer le 22 mai. Quelques jours avant la dernière journée, match qui se disputera à la maison avec la réception de Crystal Palace.
Bah je pense que c'est clairement une finale. De toute façon, le match de ce week-end entre les deux premiers du championnat anglais, bon, c'est un peu une finale avant l'heure. Après, bon, c'est très bien qu'Arsenal en ce moment ils sont vraiment sur un bon rythme de croisière, même si bon, des fois ils sont un peu des frayeurs et puis
c'est compliqué pour eux. On l'a vu encore, on va en reparler puisqu'on va évoquer les coupes d'Europe.
Ça et aussi depuis 3 ans qui commence aussi à galérer derrière ce titre, qui commence à courir. Et là, bon, je pense que là, bon, c'est quelle année où ils vont pas forcément lâcher, mais on connaît le Manchester City de Guardiola. On sait très bien que c'est une équipe vraiment redoutable qui est capable de tout arracher au moment clé, quoi.
Ouais, bah c'est vrai que malgré l'élimination en Champions League, ils ont quand même eu la force et le courage d'aller chercher cette Coupe de la Ligue juste avant la dernière trêve internationale, en battant à Wembley cette même équipe des Gunners d'Arsenal de 2-0 avec un doublé de O'Reilly, ce jeune joueur formé à l'académie des Citizens. Et là, ils vont retrouver cette équipe d'Arsenal dimanche pour ce qui sera probablement la finale de cette Première Ligue, version 2025-2026.
Oui, bien sûr, naturellement, sachant que bon, c'est vraiment les deux premiers vraiment qui sont vraiment seuls au monde, même si bon, loin derrière, il y a quand même aussi Manchester United aussi qui fait quand même des progrès, qui sont quand même aussi prêts à souligner depuis le nouvel arrivée de Carrick. Ouais. Mais sinon, après, bon, c'est vrai que... bon. C'est vrai que Arsenal, quand même, ça fait quand même aussi depuis quelques matchs où ils ont vraiment du mal à rayonner en l'espace des matchs. Malheureusement, bon, le système Arteta commence un peu à s'user de splendeur. Mais bon, ça reste une équipe pragmatique qui essaye un peu de se comporter comme une équipe de champions, à prioriser le résultat avant la beauté du jeu.
C'est une équipe qui ne gagne pas, malheureusement. Et puis bon, c'est parce que pour les supporters, ça doit être pénible. Hein. En Angleterre, on parle du boring d'Arsenal. Hein. C'est un style de jeu très, très ennuyeux. Et puis bon, là, cette année, on les attend peut-être pour aller chercher la couronne et le titre de Premier League. Mais bon, c'est...
Mais ils sont encore en Ligue des Champions. Hein.
Ouais, et ils
vont peut-être un peu aussi de l'énergie et du mental.
Ouais, c'est vrai qu'ils sont toujours en course pour la Champions League avec une place en demi-finale à jouer face à l'Atlético Madrid. Donc on va y revenir après en deuxième partie d'émission.
Ouais, je pense qu'ils ont vraiment une grosse pression, un peu comme je disais aussi juste avant. Ça fait quand même aussi depuis 2-3 ans qu'ils se mettent une pression folle par rapport au titre, où malheureusement chaque année ils se font toujours rattraper par... à Manchester City ou à Liverpool juste avant les dernières échéances. Donc là, je pense qu'ils sont vraiment en pleine survie et puis ils n'ont vraiment pas le droit à l'erreur.
Oui, c'est vrai qu'en plus, Ryan Cherki, qui s'est montré à son avantage lors de la dernière tournée américaine avec l'équipe de France, joue probablement sa place pour le mondial américain au cours des dernières semaines, là, dans la dernière ligne droite de ce championnat de Premier League.
Bah après, oui, c'est vrai que Ryan Cherki avec l'équipe de France, c'est un peu une histoire spéciale, parce que bon, malgré que des fois aussi à l'époque avec l'Olympique Lyonnais, il a pu voir certaines bonnes échéances, même si bon, il était quand même assez irrégulier. Malheureusement, c'est jamais vraiment passé avec Didier Deschamps. Donc bon, malheureusement, il ne doit pas forcément travailler deux fois plus. Il doit travailler cinq fois plus, parce que avec l'équipe de France, c'est assez particulier. Il sait que bon, tant que Deschamps est encore en place, sa place n'est pas encore garantie. Mais bon, là, comme on peut le voir, il est quand même très sérieux. Il a perdu beaucoup de poids. Et puis, c'est aussi le métronome du jeu de Pep Guardiola, un joueur qui...
C'est un joueur qu'il adore, le manager catalan.
C'est vraiment.
Il y a une relation très passionnelle, et des fois on a vu Pep Guardiola lui crier dessus et tout, parce qu'on sait ce qu'il est capable et ce qu'il attend de lui.
Et puis c'est un vrai 10 aussi, un vrai 10 vraiment pur dribbleur, qui a vraiment la vision du jeu. Et c'est un 10 qu'on voit malheureusement de moins en moins dans le football d'aujourd'hui. Mais après, c'est vrai que je pense que Ryan Cherki, si jamais il continue comme ça, il pourra avoir sa place en équipe de France, mais. Avec Didier Deschamps au pouvoir à l'heure actuelle, il y a toujours un mais par rapport à Ryan Cherki.
C'est le profil qui manquait peut-être aux Citizens pour faire face et combler le manque avec le départ de Kevin De Bruyne vers l'Italie et le Napoli.
Sachant que même aussi bon, le Manchester City, même aussi depuis l'année dernière, on a pu voir un peu que ça avait perdu un peu le charme qu'ils avaient, c'est-à-dire une possession qui pouvait vraiment faire du mal à tout le monde. Et puis bon, là, c'est vrai que bon, ils avaient perdu un peu de magie, donc je pense que Ryan Cherki, c'était un peu l'étincelle qui manquait à ce Manchester City, ouais. Et puis en plus, avec un entraîneur comme Guardiola qui ne le lâche pas d'une semelle, je pense que c'est exactement ce qu'il faut pour lui. Après, bon, à voir sur le long terme, mais pour l'instant, ça se passe très bien.
Voilà, on va rester toujours en Angleterre avec la Premier League et parler un petit peu de Liverpool, qui s'était imposé 2-0 le week-end dernier face à Fulham, avec Mohamed Salah qui était de retour comme titulaire dans le 11 de Arne Slot, et qui a d'ailleurs marqué le deuxième but pour les Reds de Liverpool. Voilà, une équipe de Liverpool qui alterne le bon et le moins bon avec pas mal d'absents, et qui est cinquième de Premier League avant d'affronter Everton ce week-end lors du derby de la Mersey contre les Toffees d'Everton.
Après, bon, c'est vrai que bon, malheureusement, ils font un peu une saison un peu en dents de scie, Liverpool. Bon, c'est vrai que c'est un peu moyen dans l'ensemble, même si bon, on sait un peu la saison qu'ils ont pu faire l'année dernière. Donc bon, si jamais on devait comparer cette saison, c'est vrai que c'est assez décevant. Après, bon, c'est dommage parce qu'ils ont quand même aussi un bon entraîneur, Arne Slot, qui prône quand même un beau football qui est quand même en adéquation avec ce club-là. Mais malheureusement, je pense que le gros mercato de cet été a dû leur bouleverser pas mal de choses, sachant que bon, de base, c'était pas forcément une équipe qui recrutait énormément. Et puis là, un grand chamboulement. Donc c'est un peu une saison compliquée dans l'ensemble.
Et c'est vrai qu'on l'évoquait la semaine dernière avec Titi. Peut-être ce qui a énormément marqué le club, c'est la disparition de Diogo Jota aussi, qui a été victime d'un accident de la circulation au mois de juillet et qui a perdu la vie. Donc voilà, on se rappelle que c'était un joueur très important dans le vestiaire des Reds et qui a joué un rôle majeur là, dans l'attribution du titre de Liverpool la saison passée.
Plus aussi, si on rajoute Alexander-Arnold, qui fait aussi déjà deux
piliers, deux tauliers de cette équipe de Liverpool qui est parti de Liverpool pour rejoindre le Real Madrid.
Après, bon, aussi, ce qui reste bizarre, c'est que bon, ça reste aussi un peu l'entraîneur qu'il y avait la saison dernière. C'est pas non plus comme si ils avaient déjà tout bouleversé depuis la saison dernière. C'est un changement assez bizarre. Après, bon, c'est vrai qu'ils ont aussi pas très bien géré la Ligue des Champions par rapport à cette décadence qu'ils ont vécue face au PSG.
Ouais, on va y revenir, puisqu'on va débriefer plus en détail toutes les rencontres de Coupe d'Europe et de Ligue des Champions en priorité.
D'accord, ok, ouais.
Donc, un petit mot, David, sur le championnat d'Angleterre. Ce qu'on était en train d'évoquer, la, la perte de vitesse et la décadence des Reds de Liverpool cette saison, avec tous ces péripéties, tous ces problèmes survenus au cours de la saison. Il y a un gros mercato aussi qui est en train de tourner au flop.
C'est vrai que par rapport aux autres années, Liverpool, qui est un club historique, n'a pas les résultats habituels. Bon, la perte d'un joueur, c'est toujours un décès, c'est toujours quelque chose. Souvent, ça soude les groupes. Bon, là, apparemment, c'est pas l'effet escompté. Puis on voit qu'avec Mohamed Salah, pour sa dernière saison, lui, un joueur légendaire comme ça, on a l'impression qu'il y a plus de problèmes avec lui que de lui rendre hommage pour la dernière saison, que tout se finisse bien. Voilà, il y a l'impression qu'il est en train de peut-être de rater son départ ou faire la saison de trop. Voilà.
Justement, après, c'est ce que j'ai...
Je n'ai pas les tenants, les aboutissants de tout ça. Quoi.
Mais c'est ce que la plupart des observateurs constatent par rapport au déclin de Mohamed Salah. Donc, on espère le revoir un peu plus à son avantage, en sachant qu'il a quand même la Coupe du Monde à préparer avec sa sélection, l'Égypte. Donc... voilà, je pense qu'on a fait le tour pour la première ligue. Tu parlais aussi de Manchester United, qui est troisième actuellement et qui a été défait à domicile en début de semaine, lundi, lors du dernier match de cette première ligue face à Leeds. Voilà, une équipe qui alterne le bon et le moins bon et qu'on retrouvera en demi-finale de la Cup.
Oui, bah après, c'est vrai que bon, pour Manchester United, c'est un peu une saison très particulière parce que bon, comme on le sait, ça avait très mal commencé avec Ruben Amorim. Après, bon, ils avaient continué un peu à retrouver confiance avec lui. Ils hésitaient même aussi à remonter à la cinquième place. Et puis là, il s'est passé un chamboulement, c'est-à-dire qu'ils ont viré Amorim, sachant que bon, l'équipe retrouvait un certain rythme. Donc du coup, après, je pense que Carrick, une fois qu'il est arrivé, il a commencé un peu à surfer sur la bonne vibe que Ruben Amorim avait réussi à installer. Et puis là, bon, on voit que finalement, la magie du nouvel entraîneur commence un peu à s'épuiser petit à petit. Mais bon, après ça, bon, on voit aussi qu'ils ont un attaquant qui casse tout cette année. Celui qui jouait à... Je sais plus comment.
Brian Bemo.
Oui, exactement.
Voilà, Brian Bemo, l'attaquant camerounais qui était à Brentford la saison dernière.
Ouais, qui porte vraiment l'équipe à lui tout seul. C'est vraiment un attaquant à frisson. Donc, c'est vraiment lui qui arrive un peu à retrouver du peps à cette équipe de United qui peine des fois à nous proposer un peu du beau jeu quand même. Des
ouais, c'est vrai que sur le front de l'attaque, il y a aussi Benjamin Sesko, l'attaquant slovène, mais qui a éprouvé énormément de difficultés après son arrivée d'Allemagne et de Leipzig. Donc c'est vrai que quasiment tout le poids de l'attaque de United repose sur les épaules de Brian Bemo.
Et puis, puis sachant que bon, même aussi un peu l'année dernière, on avait aussi un certain ailier comme... Ben un peu comme Marcus Rashford qui cette fois-ci est parti au FC Barcelone, même si bon, il ne fait pas un super travail là-bas. Donc c'est vrai que ça manque un peu de flamboyance sur certaines individualités, on va dire.
Même si c'est vrai que Marcus Rashford, l'année dernière, il était déjà parti de Manchester United.
Autant pour moi. Ouais.
Puisqu'il avait évolué sous les couleurs de Aston Villa, voilà, prêté par Manchester United. Voilà, on va clôturer ce chapitre Première Ligue et on va passer à l'Allemagne, à la Bundesliga avec la 29e journée et cette équipe du Bayern qui est quasiment sur le point de prendre de nouveau le titre, voilà, qui s'il venait à s'imposer à l'Allianz Arena dimanche après-midi face à Stuttgart, gagnerait de nouveau ce titre de champion d'Allemagne, voilà, avec une équipe quasiment en réserve, 5-0 sur la pelouse de Saint Paoli, cette équipe de la banlieue de Hambourg, avec le nouveau but de Michael Olise qui a déjà été très très bon contre le Real la semaine dernière.
Après bon, c'est vrai qu'une fois n'est pas coutume par rapport au Bayern Munich, c'est vrai que bon, leur place de champion leur est déjà réservée avant le début de chaque championnat, donc ça, il n'y a pas forcément de surprise par rapport à ça une fois de plus. Et puis après bon, c'est vrai un peu comme tu viens de dire, c'est un peu l'attaquant frisson du moment, Michael Olise. C'est un attaquant qui coche toutes les cases entre efficacité et souplesse technique. Il sait jouer ailier comme 10, il sait boucher les trous. C'est un joueur qui est aussi ambidextre.
Ouais, il joue des deux pieds, pied droit, pied gauche. Donc voilà.
C'est un vrai.
Ouais, je parle de Michael Olise justement parce que c'est un joueur qui est en train de prendre de plus en plus de place au sein du dispositif de Didier Deschamps en équipe de France aussi. On a vu qu'il a réussi à s'imposer très très rapidement dans cette équipe des Bleus.
Et puis en plus de ça aussi, bon, c'est vrai que bon, j'ai généralement ce genre de joueurs qui commencent aussi, enfin, qui est encore un peu jeune, qui généralement sont surtout performants en club et qui perdent un peu pied en équipe de France, alors que pour lui, ce n'est pas du tout le cas. Il arrive vraiment à se compléter dans les deux dispositifs, sachant que Didier Deschamps et Vincent Kompany, c'est quand même des entraîneurs très différents. Il arrive quand même à s'adapter malgré tout. Et s'il continue comme ceci aussi en équipe de France pour la Coupe du Monde, il pourrait peut-être être la surprise de l'année au Ballon d'Or. Bon, peut-être pas non plus pour le gagner, mais en tout cas, avoir une place plutôt respectable.
David, un petit mot sur l'ascension de Michael Olise au Bayern.
Oui, c'est un joueur que je remarque, qui joue bien avec l'équipe de France et qui va pouvoir profiter du malheur de Ekitike en plus. Donc je pense qu'il va vraiment avoir sa carte à jouer avec les Bleus. Quoi.
Ouais, c'est vrai qu'on va en parler de l'absence d'Hugo Ekitike qui a été contraint de déclarer forfait pour ce mondial. Et c'est vrai que ça peut peut-être chambouler les plans de Didier Deschamps au niveau tactique, cette absence-là. L'attaquant des Reds blessé gravement contre le PSG.
Ça peut faire le beau façon de parler, le malheur des uns fait le bonheur des autres, de Olise, peut-être.
Ouais. Voilà. Après, sur le championnat d'Allemagne, bon, moi, les principaux résultats, il y avait la victoire de Leverkusen 1-0 sur la pelouse de Dortmund. Bon, voilà, Dortmund qui est dauphin de cette équipe du Bayern et qui a raté sa saison une fois de plus. Bon, c'est vrai qu'on sait qu'ils sont toujours à la lutte peut-être pour aller chercher le titre, mais bon, on voit que là quand même, il y a un écart conséquent entre le Bayern et Dortmund.
Oui, et puis après, bon, bien sûr, après, bon, c'est un peu dans la continuité. C'est vrai que malheureusement, le Borussia Dortmund est un peu l'éternel deuxième dans ce championnat de Bundesliga. Même si, bon, il y a aussi une saison, c'était il y a 2-3 ans, malheureusement, ils ont tout perdu à la dernière journée. Ils étaient promis, mais malheureusement, il me semble que c'est le goal à Verage qui avait fait mouche, malheureusement. Puis ensuite, après la flamboyante saison de Xabi Alonso, Bayer Leverkusen. Mais malheureusement, c'est toujours pas l'heure du Borussia Dortmund depuis maintenant 2011, il me semble. Ouais.
Ouais.
Donc, ouais, c'est vrai que c'est un peu l'éternel deuxième. Mais bon, après, c'est vrai que c'est pas forcément le Dortmund de l'époque de Marco Reus, Aubameyang. Il reste encore pas mal de travail à faire pour cette équipe-là, avec des campagnes en Ligue des Champions qui sont encore à revoir.
Voilà. Pour terminer aussi cette Bundesliga, la 21e journée, Mayence qui défiait le Racing Club de Strasbourg, qui s'inclinait à domicile contre Fribourg. Voilà, cette équipe de Mayence, 9e de Bundesliga, qui s'est incliné, qui avait gagné le match aller 2-0.
Oui, puis qui finalement, après, bon, Strasbourg, on sait très bien un peu la ferveur qu'ils ont à domicile. En plus, bon, à mes yeux, je pense qu'ils ont eu un peu la chance du tirage, parce que bon, avoir un match retour à la Méno, c'est un peu du pain béni pour les Strasbourgeois. En plus, bon, ils ont aussi eu un bon coup aussi de leur entraîneur, c'est O'Neill. Il me semble.
Gary O'Neill, ouais, l'ancien coach de Wolverhampton, l'anglais, ouais, britannique aussi, qui a remplacé Liam Rosenior, parti à Chelsea il y a quelques semaines.
Qui a aussi du coup réussi un peu à surfer sur le travail de Rosenior, qui avait clairement fait un travail fou aussi avec le Racing Club de Strasbourg, qui a vraiment une équipe qui est vraiment pétrie de talent, même si bon, il leur manque un peu d'expérience pour vraiment exploser, ne serait-ce qu'en Ligue 1. Mais après, c'est vrai que pour en revenir à Mayence, hier, ils ont vraiment tout cassé. En plus, aussi, il a aussi fait le pari de faire entrer Emega à partir de la 60e minute, une fois que le jeu a commencé un peu à se calmer. Et puis, c'est Vincent Emega en tant que capitaine.
Emmanuel Emega, l'attaquant néerlandais de Racing.
Qui a fait un très bon travail. En plus, on connaît très bien son physique. Il sait très bien qu'il s'est relié puissance et puis vitesse, et on sait très bien que ça, c'est un
c'est vrai qu'il a eu quelques petits soucis ces dernières semaines, mais bon, là, il revient fort. Et puis bon, il joue encore une place pour être dans l'effectif des Pays-Bas avec Ronald Koeman pour la Coupe du Monde.
Et puis de toute façon, il me semble que son transfert à Chelsea est déjà acté. De toute façon,
oui, ça y est. Oui, il a déjà signé pour la saison prochaine chez les Blues de Chelsea. Donc, il rejoindra Londres et l'Angleterre l'an prochain.
Donc, je pense que ces moments de difficulté peuvent aussi se traduire par le fait qu'il a un peu la tête ailleurs, de rejoindre les Blues, ce genre de choses. Sachant que, bon, Strasbourg, il me semble qu'en Ligue 1, il se sent en train de jouer à la qualification pour la Conference League. Donc, bon, quand on connaît un peu l'âge du joueur, peut-être que, bon, il comptait peut-être rêver un peu plus tard.
Les Strasbourgeois qui n'ont pas joué le week-end dernier en Ligue 1, hein, puisque leur match face au Stade Brestois a été remis au mois de mai.
Voilà, et ils sont encore en Coupe de France. Hein.
Et n'oublions pas, ouais, cette semaine, ils joueront une demi-finale de Coupe de France avec l'OGC Nice, la réception de l'OGC Nice à domicile au Stade de la Méno. Donc, cette équipe de Strasbourg encore en lice sur tous les tableaux en cette fin de saison. Voilà, pour refermer la partie allemande de Bundesliga, un petit mot aussi sur la victoire de Leipzig 1-0 contre Mönchengladbach. Mais c'est vrai que cette équipe de Leipzig, elle a été éliminée assez rapidement des compétitions européennes. Donc, avec un but de Joe Mandé, international ivoirien. Je sais pas ce que.
Oui, bah après, bon, c'est vrai que Leipzig, on sait un peu comment ça. On sait un peu comment ça fonctionne, un peu, c'est un peu du trading, un peu comme notre cher Pablo un peu a pu faire à l'OM. C'est vrai que bon, là, Leipzig, c'est un peu l'usine où ça va, ça vient. Il y a plein de joueurs qui ont environ la vingtaine. Ça appuie la jeunesse, dans le bon sens du terme. Après, bon, c'est vrai que Leipzig, c'est pas forcément le style de club sur lequel on peut vraiment créer un projet sur le long terme. Après, c'est vrai que
c'est l'entreprise Red Bull qui est derrière le club de foot. Donc voilà, sponsor maillot de. Du club allemand.
Oui, c'est vrai. Oui. Puis, c'est un club qui reste aussi plaisant à voir jouer parce que bon, c'est vraiment un club qui représente vraiment le football allemand à l'état pur, c'est-à-dire les contre-attaques ou vraiment tout jeter vers l'offensif. Mais c'est un club auquel je me dois aussi de regarder un peu plus parce que c'est vraiment la traduction même à certains moments du football allemand.
Oui, il y a eu il y a toujours dans cette équipe l'ancien défenseur lyonnais Castello Luqueba, et puis bon, il y a aussi Loïs Openda aujourd'hui en Italie à la Juventus qui est passé par ce club. Donc on a vu qu'il y avait quand même pas mal de bons joueurs qui ont joué ces dernières années. Puis bon, n'oublions pas aussi pour nos auditeurs que Leipzig, c'est un club assez récent dans le championnat allemand et parmi l'élite en Bundesliga. Il y a encore quelques années, ils évoluaient à l'échelon inférieur. Donc, ils ont su gravir les étapes les unes après les autres. C'est un club qui est en train de monter énormément. Donc, voilà.
Qui se abonne à peu près chaque année en Bundesliga, un peu dans le top 5 aussi.
Ouais. Oui, et là, actuellement, à 6 journées de la fin, ils sont 4e avec 56 points. Donc, encore bien placés pour aller chercher une place en Coupe d'Europe.
C'est un peu dans la continuité de chaque année, je me fais pas de soucis pour eux. Je sais que
voilà, donc voilà, et pour rappel, meilleur buteur de cette Bundesliga, c'est toujours Harry Kane qui n'a pas marqué le week-end dernier, mais qui a marqué face au Real. On va y revenir lors de la page Ligue des Champions, voilà, avec 31 buts. On va refermer l'Allemagne et on va parler un petit peu de l'Espagne avec un week-end rétro pour la Liga espagnole. Voilà, 31e journée, 25 buts quand même marqués sur les pelouses espagnoles avec quasiment un grand pas pour le FC Barcelone pour le titre de champion d'Espagne avec ce match nul de Real à la maison face à Girona, un but partout, et la victoire du Barça dans le derby face à l'Espagnol 4-1.
Oui, mais c'est vrai que bon, après bon, le Barça, c'est vrai que cette année ils sont un peu seuls au monde aussi, on va dire, cette année avec un Real Madrid qui est vraiment sur lequel on peut se poser certaines questions.
Le Real Madrid qui terminera la saison sans le moindre trophée.
Oui,
voilà. Ça sera une saison blanche pour la Maison Blanche. Voilà.
C'est vrai que c'est révélateur de pas mal de choses sur ce qui peut se passer en interne. Mais après, bon, c'est vrai que sur le Barça de cette année, après, bon, on ne va pas se le cacher, ils ont un phénomène qui arrive vraiment à se distinguer au milieu de ce collectif, qui arrive vraiment à jouer pour lui. Alors que, bon, au Real Madrid, ils ont des stars. Et les stars n'arrivent pas forcément à se démarquer, alors que le Barça avec Lamine Yamal, c'est tout l'inverse. C'est un petit qui marche sur l'eau,
Sauf en Ligue des Champions.
On va en parler puisque malheureusement le Barça est sorti de cette compétition européenne, voilà, a pris la porte face à l'Atlético Madrid au stade des quarts de finale.
Et puis qui forcément bon est moins resplendissant aussi que la saison dernière, même si bon cette année Hansi Flick arrive un peu à faire avec les âmes qu'il a. C'est pas forcément le jeu aussi flamboyant qu'il avait l'année dernière, même si bon l'équipe n'a pas forcément diamétralement trop changé.
C'est vrai que pour le technicien allemand, quand même, il doit faire face à pas mal de blessures, puisqu'on a vu que ces derniers temps, il y avait Robert Lewandowski, qui est plutôt en fin de parcours, qui était blessé. Il a dû faire face aussi à la blessure de Frankie de Jong, l'international néerlandais, qui revient tout juste depuis quelques jours. Donc... un effectif amoindri pour les Catalans cette saison, avec pas mal de blessures.
C'est vrai que ça reste assez poussif. Après, bon, je ne suis pas assez renseigné si jamais la Masia est encore une si bonne époque, encore une si bonne école pour faire révéler des jeunes talents en termes de doublure en cas de problème, si jamais il y a des blessés. Mais c'est une équipe bon, qui est un peu dans une période de transition un peu compliquée. Bon, c'est peut-être un problème de préparateur physique ou ce genre de choses en interne. C'est des genres de choses qui resteront à vérifier. Après, bon, visiblement, ils n'ont pas trop eu besoin de trop se forcer malgré les blessures, vu que, bon, ils ont vraiment un Real qui est inquiétant et puis qui, bon, qui a beau enchaîner les stars un peu comme chaque année. Mais c'est vrai que, bon, la perte de l'entraîneur de Xabi Alonso a vraiment été cruelle aussi pour eux, quoi. Parce que finalement, on se retrouve que Areola n'est pas forcément l'homme de la situation.
Arbeloa. Ouais. Pas Areola, gardien qui était en équipe de France, aujourd'hui en Angleterre, du côté de West Ham. Et c'est vrai que dans ce championnat, le fait de voir quand même toujours Kylian Mbappé, meilleur buteur, Pichichi de cette Liga, c'est quand même surprenant.
Hein. Après, bon, on va pas se le cacher, c'est un peu un Mbappé un peu aussi comme, donc, un peu comme sa dernière saison au PSG, c'est-à-dire qu'individuellement, il casse tout. Mais sauf que c'est au détriment du collectif, malheureusement. C'est un joueur qui en ce moment centralise un peu trop les débats. Et puis qui, bon, a quand même vraiment une gestion du vestiaire à chaque fois liée à lui qui est vraiment particulière. Bon, après, je ne sais pas trop ce qui se passe en interne. Mais c'est vrai que chaque année, Mbappé explose les scores. Mais on entend plus parler de problèmes en lien avec lui qu'autre chose, quoi.
C'est vrai que l'attaquant et capitaine de l'équipe de France fait parler de lui dans la capitale espagnole. Mais bon, après, des fois, les avis sont partagés, sont divisés par rapport aux supporters et aux aficionados du Real.
Après, je pense que c'est quelque chose aussi d'un peu plus général, parce que bon, c'est très bien aussi que Vinicius, c'est quelqu'un aussi qui a aussi un caractère assez bien trempé. Mm. Plus aussi, Bellingham. Qui était quand même aussi une...
Il y a beaucoup de joueurs clivants dans le vestiaire du Real. C'est ça qui
malheureusement, Bellingham n'a jamais vraiment réussi à dévoiler un peu son plein potentiel au Real Madrid. Même si, bon, quand il était arrivé, c'était vraiment le...
Même si c'est vrai que cette année, ces dernières semaines, il a été souvent du côté de l'infirmerie avec des blessures à répétition. Donc, qui l'ont en partie freiné, qui l'ont en partie gâché sa saison.
Et puis, en plus de ça, après, bon, c'est vrai que bon, la perte...
Il y a quand même deux joueurs qui ont été difficiles à remplacer, c'est Luka Modric, je pense, et Toni Kroos.
C'était vraiment milieu de terrain. En plus, c'était l'expérience, c'était la force tranquille. Ouais. En plus, bon, ils avaient je pense que bon, nous qui adorons le foot, ce sera forcément des joueurs qui vont forcément nous manquer, parce que bon, c'était vraiment des joueurs qui étaient très classe. Et en plus de ça, bon, la perte de Carlos Ancelotti, qui est un entraîneur qui arrivait à faire le minimum, mais le minimum, il arrivait à gagner 3 Ligues des Champions d'affilée, quoi. Donc c'est la perte de 3 légendes du Real Madrid, j'ai envie de dire.
Oui, c'est vrai que le Carlo Ancelotti, qui est parti du Real la saison dernière et qui est désormais sélectionneur du Brésil, et aussi Toni Kroos, qui a pris sa retraite il y a deux ans, juste avant l'Euro 2024. Et Luka Modric a quitté l'été dernier le Real pour rejoindre la Serie A et l'Italie avec le Milan AC.
Il va faire un beau milieu de terrain avec Adrien Rabiot.
Oui, c'est vrai. Ben justement, la transition est toute trouvée, puisque on va parler de l'Italie avant de passer à la Coupe d'Europe avec le championnat italien et l'Inter qui file tout droit vers un nouveau titre, un scudetto, avec une belle victoire sur la pelouse de Com, cette équipe de Cesc Fabregas surprenant en promu, 4-3 avec un doublé de Marcus Thuram.
Oui, bah après, bon, c'est vrai que bon, c'est un peu un Inter de Milan qui est un peu dans la continuité de la saison dernière, même si bon, l'année dernière, c'est surtout le parcours en Ligue des Champions qui pouvait faire titiller. Mais sinon, après, voilà, c'est vraiment une équipe qui, sur 3 ans, arrive un peu à trouver un peu sa vitesse de croisière, qui arrive à tout enchaîner du côté de l'Inter. Donc, ouais, c'est une équipe où le meilleur leur reste à venir, j'en suis sûr.
Ouais, c'est vrai qu'il y a eu la défaite, la perte de cette finale face au PSG à Munich au mois de mai dernier. Et puis bon, là, l'élimination cette année face aux Norvégiens de Bodo Glimt, oui. ça a été plutôt mal accueilli et mal digéré par les tifosi de l'Inter. Donc,
le football italien en général, plus la non-qualification de l'équipe nationale pour la Coupe du Monde, aucun club en Coupe d'Europe. C'est une année pas terrible pour transalpin.
C'est vrai que le championnat italien est un peu sur le déclin. On l'a vu aussi par rapport à l'équipe nationale qui a raté de nouveau sa qualification pour la Coupe du Monde. La troisième édition que les Italiens rateront. Voilà, après la Russie, le Qatar, les États-Unis, le Mexique et le Canada cette année. C'est dur pour le championnat italien qui faisait office de meilleur championnat du monde il y a quelques années, quelques saisons encore.
Ami Gattuso, encore un ancien entraîneur qu'on retrouve forcément à son avantage.
Ouais. Gennaro Gattuso qui a remis sa démission à la fédération.
Oui, et il ne pouvait faire que ça.
Voilà. D'ailleurs, on connaîtra son successeur au mois de juin.
Avec Gigi.
Voilà. 22 juin. Et puis bon, là, pour la prochaine fenêtre internationale début juin, ça sera Silvio Baldini, sélectionneur des moins de 21 ans, qui sera sur le banc de cette équipe italienne pour assurer l'intérim. Mais bon, on retrouvera un nouveau sélectionneur dès le mois de septembre pour aborder cette campagne de Ligue des Nations qui nous attend avec l'équipe de France aussi. Il y a un France-Italie qui est prévu le 2 octobre au Stade de France, voilà, avec probablement Zizou sur le banc de l'équipe de France. Voilà, ouais. Et l'Italie qui jouera son premier match en Belgique fin septembre. Voilà, le 25 septembre, ça sera la première journée, le grand début de cette Ligue des Nations. Compétition très intéressante à suivre.
Heureusement que ce n'est pas Materazzi qui reprend l'équipe d'Italie. Ça aurait fait des retrouvailles pour le 2 octobre, pour le moins.
Ouais. Ce serait France-Italie, le problème, le premier match de Zidane.
Ah oui, oui.
Son premier match en plus.
Son premier match à domicile.
Oui,
puisque ça sera la deuxième journée de cette Ligue des Nations. Début octobre, voilà. C'est un des rares matchs que la sélection française jouera sur la pelouse du Stade de France. Donc voilà, ça sera les grands débuts de Zizou à domicile.
Puis normalement.
Bon, dans l'ancienne dionysienne qui lui est si chère avec ce titre de champion du monde en 98.
Ouais, puis de toute façon, même aussi après, sans forcément mauvaise surprise, je vois pas forcément après d'autres entraîneurs français qui puissent prendre la place. Oui. De Zinedine Zidane, après ça, je pense que...
Et n'oublions pas que c'est lui qui avait marqué le premier but au Stade de France, le jour de l'inauguration, dans un froid glacial, contre nos amis espagnols.
Voilà, c'est vrai, parce qu'en plus, j'étais présent jour-là dans les tribunes du Stade de France. Voilà, pour en revenir à l'Italie, juste un petit mot sur la lourde défaite du Milan AC sur la pelouse de San Siro face à l'Udinese 3-0. Voilà, tu parlais de Luka Modric, Adrien Rabiot, ancien Marseillais, qui fait une belle saison avec cette équipe du Milan, mais on a vu que pour nos amis milanais, c'était un peu compliqué ces derniers temps avec une défaite sur la pelouse de Naples à l'occasion du week-end précédent, et là, cette défaite le week-end dernier à domicile face à l'Udinese, 3-0.
De toute façon, si je ne me trompe pas, là, ils sont en train de jouer le titre. Enfin, je veux dire, ils sont en très bonne posture par rapport au titre.
Ça risque d'être compliqué pour aller chercher le titre. Je pense que le titre, ça sera plutôt pour l'Inter de Milan.
Mais ils devraient se qualifier en Coupe d'Europe.
Oui, c'est vrai.
Là, ils y étaient pas.
Hein. Cette année, la Sénilan n'a joué aucune Coupe d'Europe.
Hein. C'est pas tous les ans, ça. Hein.
C'est très rare de voir une saison sans que le Milan AC soit sur la scène européenne. Et puis bon, là, cette année, n'oublions pas qu'ils ont terminé 8e l'année dernière de Serie A. Donc,
effectivement.
Voilà, ils ont totalement raté leur saison, ce qui a fait qu'ils n'ont pas joué la moindre Coupe d'Europe. Voilà, après sur l'Italie, un petit mot sur le Napoli aussi, qui a fait match nul partout sur la pelouse de Parme. Voilà, cette équipe de Naples, ce n'est pas une équipe que tu suis en particulier, il n'y a pas des joueurs.
Non, alors après, c'est vrai que bon, de façon globale, c'est vrai que après bon, le championnat italien, après bon, c'est vrai que je me suis plus intéressé à la rigueur à la saison de l'AS Roma, vu qu'ils ont un entraîneur que j'apprécie beaucoup au nom de
Giampiero Gasperini, qui est passé par l'Atalanta auparavant.
Qui était passé par l'Atalanta, qui est vraiment un style d'entraîneur, vraiment qui a un style de jeu qui me parle particulièrement. Avec le pressing vraiment à tous les niveaux du terrain. Et puis, ça, c'est vraiment un entraîneur qui a fait vraiment les beaux jours de l'Atalanta, c'est-à-dire pendant près de 10 ans. Et puis, finalement, bon, c'est plus par rapport à la rigueur à cet entraîneur que là, je regarde ce championnat. Et puis après, c'est vrai qu'il fait quand même aussi un beau championnat avec l'AS Roma, qui n'est pas forcément le cas depuis certaines saisons aussi de leur côté.
Mmh. Oui, l'AS Roma qui a été éliminé de l'Europa League face à Bologne. Mais bon, c'est vrai que... Après, là, en ce moment, en Italie, ils parlent beaucoup de la guéguerre qu'il y a entre Claudio Ranieri et Giampiero Gasperini. Voilà. Il y a un petit différent qui fait qu'on ne sait pas trop encore si jamais... Bon, c'est vrai que Claudio Ranieri est revenu dans le staff du club romain depuis sa retraite, mais bon...
D'accord, ok, ouais.
Voilà, c'est vrai qu'après le Napoli, il y a l'ancien Marseillais André-Franck Zambo-Anguissa, international camerounais, qui jouera pas la Coupe du Monde et qui a raté la Coupe d'Afrique des Nations.
Oui, et puis même aussi après, c'est vrai que Zambo-Anguissa, c'est un joueur aussi qui est capable de faire de vrais éclats aussi, un peu comme on a pu le voir aussi il y a 2 ans, il me semble, avec le Napoli. C'est un joueur vraiment qui est pétri de talent et puis qui a un profil de jeu qui pourrait plutôt m'attirer en le voyant, pourquoi pas, un jour vers l'Angleterre. Pourquoi pas.
C'est vrai qu'il a déjà joué en Angleterre. C'est vrai que depuis son départ de l'Olympique de Marseille, il est passé par Fulham, Villarreal et aujourd'hui l'Italie avec le Napoli. Et c'est vrai qu'il s'éclate avec cette équipe de Naples et sous les ordres d'Antonio Conte, qui est un entraîneur...
qui est reconnu, bien sûr.
Oui, un entraîneur qui privilégie le beau jeu et vraiment.
En 3-5-2 aussi, toujours ?
Oui.
Toujours fidèle à son 3-5-2, ouais. Ok, ouais.
Voilà. On va terminer cette partie championnat. On va parler des Coupes d'Europe avec la Ligue des Champions. Voilà, ça avait démarré mardi soir avec le PSG qui s'est imposé 2-0 sur la pelouse d'Anfield face à Liverpool avec un doublé d'Ousmane Dembélé, le Ballon d'Or.
C'est vrai que bon, on va pas se le cacher, bon, c'est vrai que le PSG, bon, c'était pas forcément dans les paris il y a encore quelques mois, mais petit à petit, match après match, depuis bon, malheureusement, j'ai l'impression que ça fait depuis le 5-0 qui nous ont infligé à nous l'OM, j'ai l'impression que c'est un tout nouveau PSG, c'est-à-dire le PSG qu'on retrouve de la saison dernière, avec des joueurs vraiment tonitruants qui arrivent un peu à retrouver de leurs blessures, mis à part Désiré Doué. Mais c'est des joueurs qui arrivent un peu à retrouver leur automatisme.
Là, on rentre dans le money time, et puis bon, ça, c'est que...
Ils le font au meilleur moment, quoi. Parce que bon, un peu toute la saison, la saison a été lourde pour eux. Ils avaient les jambes lourdes.
On rappelle pour nos auditeurs qu'il y a eu la Coupe du Monde des clubs dans la foulée de cette finale remportée à Munich face à l'Inter. Donc la plupart des joueurs n'ont pas pu couper. Puis bon, avec les échéances internationales, là, l'enchaînement...
Pas de grosse préparation physique.
Ligue des champions, championnat de France et Coupe du Monde pour la plupart des internationaux parisiens. C'est un calendrier encore surchargé pour les semaines à venir.
Ils sont prêts au meilleur moment, mais bon, après, voilà... Après, bon, on va pas se le cacher. Après, bon, ils ont des latéraux qui sont aussi, à mes yeux, je pense, aujourd'hui, les meilleurs latéraux du monde, avec un Pacho qui cette année marche sur l'eau. Donc, en plus de ça, ils ont aussi des joueurs qui sont vraiment mondialement reconnus aussi. Donc ça, forcément, je pense qu'en plus, ils viennent juste de se réveiller, on va dire. Donc attention au PSG et leur retour en boulet de canon, j'ai envie de dire. Ah.
Et pour nos auditeurs, Hugo porte un magnifique maillot d'entraînement de la sélection marocaine. Un petit mot sur le capitaine de cette équipe des Lions de l'Atlas, qui a été reconnu par la Confédération africaine de football comme champion d'Afrique après sa défaite à domicile face au Sénégal. Achraf Hakimi, comment tu le trouves, toi, depuis son retour de blessure? On sait qu'ils vont retrouver le Bayern de Munich dans un peu plus de 10 jours pour cette demi-finale aller. Voilà. Lui qui avait été blessé lors du match de poule face au Bayern et ce terrible tacle de Luis Diaz, le milieu de terrain colombien de cette équipe bavaroise.
Oui, bah alors bon, c'est vrai qu'après, bon, pour en revenir à Achraf Hakimi, c'est vrai que bon, après, de base, il faisait un peu une saison qui était fidèle à lui-même. Il était un peu sur tous les fronts, rempli de bonnes polyvalences avec toujours des centres de grande classe. C'est un peu un robot complet, j'ai envie de dire. Et puis après, bon, c'est vrai que bon, il s'est passé cette canne jusqu'au moment de la finale qui quand même aussi a fait source de plusieurs débats. Et puis bon, j'ai l'impression que les débats ne sont pas encore terminés, même si le canne a été donné finalement et très justement au Maroc. Après, bon, c'est vrai que bon, pour Hakimi, c'est un peu des retours qui sont assez compliqués, mais bon, après ça va, il est bien entouré.
Il a quand même joué il a tout fait pour revenir à temps pour disputer sa Coupe d'Afrique des Nations. Et puis bon, c'est vrai qu'il a gagné le titre de Ballon d'Or africain cette saison.
Oui, bien sûr, oui.
Voilà, puis bon, après, c'est vrai que c'est un joueur qui est un petit peu perturbé aussi par rapport à ses problèmes. Lié à la justice, voilà.
Personnel, ouais,
voilà.
C'est ce qui a aussi un peu dû lui peser dans la tête. Après, bon, ouais. C'est vrai que c'est pas forcément le Hakimi vraiment flamboyant.
Après, nous, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, mais bon, c'est pas un domaine qu'on maîtrise. Mais bon, on rappelle juste qu'il est impliqué dans une affaire de viol sur son ex-compagne. Voilà, et puis bon, donc. Enfin, bon, refermons la parenthèse.
Ça reste comme aussi important un peu à. Un peu aussi à peser un peu dans ses contre-performances et puis je pense que ce n'est pas forcément purement footballistiquement quoi.
Après sur le match et cette victoire plutôt acquise dans de bonnes conditions, même s'il y a eu un Liverpool meilleur qu'au match aller, mais bon, voilà, 4-0 sur l'ensemble des deux matchs.
C'est vrai que bon, c'était un PSG qui était qui avait forcément un peu du mal pour ce match qui était donc du coup, c'était avant-hier. Bon, c'était pas forcément le PSG qui a pu dévoiler son grand jeu et puis sa grande possession flamboyante de Luis Enrique. Ils ont galéré parce que bon, ils étaient pas dans une bonne posture, même si bon, ils étaient en train de gagner. Mais bon, quand tu joues à Anfield, un match retour, et quand tu as déjà gagné le match aller, ne t'attends pas forcément à dominer tout le match. Mais bon, ils sont comportés comme.
On rappelle quand même que l'année dernière, ils ont gagné au pénalty en huitième de finale sur cette même pelouse de Anfield. On se rappelle de la grande performance de Gigio Donnarumma aussi, qui avait été exceptionnel lors de la séance des tirs au but.
Oui, et puis même aussi un peu comme l'année dernière aussi, c'est un PSG qui à domicile a complètement écrasé Liverpool dans tous les compartiments du terrain. Et puis qui finalement là-bas, bon, ben, quand on se retrouve à Anfield, on ne peut pas se retrouver.
Mais ils n'ont pas tremblé. Et Dembélé a justifié son ballon d'or. C'est marqué deux buts comme ça dans un stade mythique, dans une telle partie, un tel niveau, ça en impose.
C'est pragmatique. Il revient au très bon moment, là, Ousmane Dembélé.
Ils sont pas rassasiés, malgré voilà,
dans le sprint final, dernier carré de Ligue des champions, et puis bon, le titre de champion, bon,
normalement, c'est pas trop de soucis. Ils ont lâché la Coupe de France.
Il y aura le championnat avec la réception de l'Olympique Lyonnais dimanche soir au Parc et ce match en retard aussi prévu le 22 voilà, mercredi prochain contre le 22 contre Nantes. Nantes.
Ah, bon.
Voilà, il y a deux matchs en retard. Il y a le match face à Nantes mercredi et le match face au Racing Club de Lens qui a été déplacé le week-end dernier. Se disputera au mois de mai, voilà, le 13 mai.
Ils sont à 6 points d'écart ou un peu plus, je crois, maintenant, entre Lens et le PSG.
Oui, il y a 6 points.
Il y a 6 points. Donc
s'ils gagnent, c'est fini.
Autant dire que le titre est quasiment joué.
S'ils gagnent.
Voilà. On va parler aussi de, je pense, cette affiche qui en fait saliver plus d'un. Ben, ça sera l'adversaire en demi-finale du Paris Saint-Germain, le Bayern de Munich qui s'est imposé 4-3 face au Real Madrid.
Après, bon, on verra, parce que bon, on sait très bien qu'il y a déjà eu un PSG-Bayern, donc on va bien voir si cette fois-ci le PSG aura vraiment un esprit revanchard, parce que là, les cartes seront vraiment redistribuées, et puis les rapports beaucoup plus équilibrés, même si bon, je donnerais quand même une petite pièce supplémentaire sur le Bayern, parce que ce qu'ils font depuis le début de saison, c'est vraiment une équipe de warriors qui marche sur tout le monde. Après, bon, voilà, un peu comme j'ai dit, bon, le PSG peut toujours aussi un peu avoir l'esprit revanchard par rapport aussi à Luis Diaz, par rapport à la lourde faute sur Achraf Hakimi, qui a seulement écopé d'un carton jaune, en plus sur le coup, qui avait fait scandale, il me semble, non ?
Non, le carton rouge.
Ah, mais c'était après la VAR, alors il me semble. Ouais. Okay, ouais. Après, bon, c'est vrai que bon, ça reste aussi un match. Je pense que c'est vraiment la grosse affiche depuis de longues années qu'on l'a payé en Ligue des Champions. Parce que bon, malgré tout, l'année dernière, on n'a pas forcément eu une équipe à la hauteur du Bayern Munich, même si bon, c'était le PSG l'année dernière. Donc cette année, bon, sûr.
Là, cette année, le PSG remet son titre en jeu. Puis bon, c'est vrai que c'est peut-être l'adversaire le plus coriace.
Et le match retour est en Allemagne.
Voilà, donc voilà, c'est vrai qu'on peut. Le match aller se jouera le 28 au Parc et le retour une semaine après à l'Allianz Arena de Munich.
S'il se qualifie encore, je pense qu'on ne pourra plus dire grand-chose.
Le supporter de l'OM, c'est vrai que ouais,
ce
serait
compliqué. C'est compliqué de voir cette équipe de Paris aller loin dans cette Coupe d'Europe et cette Ligue des Champions.
On va dire que c'est bon pour l'indice UEFA français.
Oui, et puis le font de la meilleure des façons. Après, bon, ils ne l'ont pas non plus fait à l'époque de Christophe Galtier en enchaînant les Neymar, les Messi et puis les stars. C'est surtout un collectif qui s'est construit depuis 2-3 ans. Et puis c'est plus un travail honorable qui a souligné, même si bon, au fond de nous, Marseillais, ça nous fait un peu mal quand même. Mais
il y a des très bons joueurs, très talentueux. Puis bon, après, quand on prend toutes les individualités.
Qui aime bien ses troupes, je pense.
Ah ben, quand on voit aussi un joueur comme Vitinha. Vitinha qui fait vraiment qui pourrait limite des fois jouer tout seul sur le terrain. Il pourrait faire la différence limite contre 11 joueurs. Donc non, franchement, c'est une équipe.
Un petit mot aussi sur un joueur qui était en perdition il y a quelques mois et qui revient très très fort là. Bon, d'ailleurs on se fait du souci, on se demande si Fabian Ruiz va pouvoir reprendre sa place de titulaire dans le 11 parisien. C'est Warren Zaïre-Emery, le milieu terrain qui a gagné sa place au milieu terrain dans cette équipe parisienne et qui se fait une place au soleil en équipe de France, puisque il sera, sauf surprise de dernière seconde, dans la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde dans quelques semaines.
Après, oui, c'est vrai que bon, en plus, Fabian Ruiz, ça fait depuis presque le début de saison qu'il est blessé. Et ça a été.
Non, ça fait. Il s'est blessé au mois de janvier. Son dernier match remonte à 20 janvier sur la pelouse du Sporting. Voilà, ça fait bientôt 3 mois.
C'était aussi après une saison assez compliquée pour le PSG dans l'ensemble, où bon, il y avait pas mal de joueurs qui partaient, qui revenaient. Donc c'est une saison assez compliquée au niveau des blessures. Et puis après, bon, voilà, pour en revenir à Zaïre-Emery, c'est un joueur du coup qui est arrivé en pompier de service et qui finalement on se rend compte qu'il y a vraiment qu'il y a vraiment sa place dans le trio à côté des deux leaders techniques qui arrivent à reboucher les trous, qui arrivent à un peu compenser les brèches, qui arrivent même aussi des fois à compenser au poste de latéral droit. Donc ouais, c'est un joueur très brave qui pourrait être très important aussi pour le mondial de Didier Deschamps.
Voilà. Très rapidement, puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, on va rapidement évoquer les deux derniers quarts de finale avec l'Atlético de Madrid qui s'est incliné sur sa pelouse face au Barça de 2-1, mais qui est quand même qualifié, qui défiera Arsenal avec un triste match nul 0-0 pour les Gunners face au Sporting à l'Emirates.
Oui, mais de toute façon, un peu comme je disais aussi en tout début d'émission, bon, on va pas se le cacher, c'est un Arsenal qui va pas forcément chercher à faire des fulgurances. Ils sont là pour assurer ce qu'ils ont à faire. Chaque match, ils ne le jouent pas, ils essayent de le gagner au maximum, en tout cas, ils essaient d'en tirer un résultat, quitte à délaisser un peu la manière. Après, c'est vrai que la chose un peu qui me choque, c'est un peu la présence du Sporting Portugal à ce niveau-là de la compétition.
Le Sporting qui était en phase régulière avec le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Et d'ailleurs, les deux clubs français se sont inclinés sur la pelouse du stade Alvalade.
Après, bon, c'est vrai qu'aussi que bon, il y a des nuances aussi assez importantes par rapport à ces défaites-là, parce que bon, l'OM a fait une première période là-bas. On n'a pas vu le Sporting mettre un pied devant l'autre, même si bon, après en seconde mi-temps, il y a eu un carton rouge de Emerson Palmieri. Et puis après, même aussi en plus de ça, même s'ils ont aussi gagné contre le PSG, c'est un match où le PSG a au moins eu 30 frappes et le Sporting au moins 2 occasions. Donc c'est le vrai petit poussé de cette Ligue des Champions. Je donnais vraiment pas cher de leur peau, même aussi limite qu'ils ne sortent pas des poules. Mais finalement, c'est une équipe
qui ils ont éliminé Bodo Glimt aussi en 8e de finale après avoir perdu 3-0 sur la pelouse des joueurs de Norvège. Donc,
que même aussi la perte de Guillaume Kéres finalement à Arsenal ne leur a pas non plus fait si mal que ça, parce que bon, pour moi, à mes yeux, faire une telle performance en Ligue des Champions avec une équipe qui au vu des yeux paraît amoindrie, faire ça sans un attaquant de classe mondiale style Guillaume Kéres, c'est vrai que c'est assez surprenant, même si bon, Luis Suarez fait quand même du très bon travail cette année, donc ça reste...
On le connaît bien à Marseille, puisqu'il est passé par l'Olympique de Marseille il y a quelques saisons, bon, sans grande réussite, mais c'est vrai que bon, après il y a eu son passage en Espagne du côté d'Almeria qui lui a fait grand bien. Et puis bon,
j'aurais un petit mot quand même aussi pour l'Atlético qui pour moi mériterait de gagner ce trophée après toutes ces finales perdues contre leurs amis intimes de la même ville du Real, avec pour sortie de
Antoine
de
Griezmann.
Voilà, je pense que ce serait pour lui la meilleure façon de refermer le livre avec l'Atlético. Et là, je pense qu'il rentrerait vraiment dans la légende de ce club.
Oui, Antoine
c'est pas
Griezmann,
évident, le deuxième club de la ville de Madrid qui perd des finales de Ligue des Champions contre l'autre club de la ville de Madrid. Et bien sûr, c'est toujours le Real qui les...
Si c'est vrai que bon...
Il fait souffrir.
Il y a l'Olympique de Marseille qui est bien placé pour en parler, puisqu'ils ont perdu une finale d'Europa League en 2018.
Ça, c'est l'Europa League, c'est la Ligue des Champions. Là, je pense que pour Griezmann, ça serait une consécration. Ouais. Après 2 finales perdues, je pense.
Voilà, il y a quelques saisons avec Rudy Garcia, mais c'est vrai que ce serait une belle sortie pour Antoine Griezmann avant son départ vers les États-Unis.
Ah, là, il pourrait y aller.
Et la MLS à Orlando.
Des contractions.
C'est vrai que déjà, il pourra déjà étoffer son palmarès avec une Copa del Rey, puisqu'il y a la finale de la Coupe du Roi qui se dispute à Séville demain soir face à la Real Sociedad, son club formateur. Donc,
c'est aussi une équipe qui est fidèle à ses valeurs, qui a toujours le même entraîneur, Diego Simeone, depuis maintenant 12 ans ou 13 ans maintenant, avec toujours le même 4-4-2, si je ne me trompe pas, avec toujours le même pragmatisme, le fait de rester en défense tout le temps. Ce n'est pas forcément l'équipe la plus sexy, mais c'est une équipe quand même qui joue avec le cœur, et c'est important à souligner pour au moins leur faire offrir au moins une Ligue des
Champions. Ah oui, pour moi, il la mériterait. Mais après... c'est pas toujours les plus méritants qui en football qui sont récompensés.
Il nous reste 5 minutes pour évoquer l'Europa League et la Conference League. Juste un petit mot rapide sur l'Europa League avec ces demi-finales qui vont opposer Aston Villa.
Oui. Bah après,
qui a sorti le LOSC au tour précédent et qui a battu Bologne. Voilà.
Après, bon, c'est vrai que bon, Aston Villa, c'est un peu la grande équipe favori un peu de la compétition, parce que bon, c'est une équipe qui, avec Unai Emery, fait vraiment un travail flamboyant, qui chaque année en Première Ligue ne fait pas forcément...
Grand spécialiste de la compétition.
Exactement, oui, c'est vrai, avec son fameux exploit avec Villarreal. Après, bon,
Villarreal et Séville.
C'est le gardien argentin, là-bas. C'est le gardien de l'Argentine.
Oui, il y a Dibu Martinez, ouais.
Exactement,
ouais.
Le foufou,
numéro 1, voilà, grand ami des supporters français.
Et notre minot aussi, Boubacar Camara. Après, bon, c'est vrai que Aston Villa, c'est pas forcément une équipe qui brille par ses stars, mais c'est à chaque fois un peu une équipe qui arrive un peu à se glisser là où il faut. Après, bon, faut pas forcément les vendre directement un peu comme gagnants, parce que bon, là, on sait très bien à quel point toutes les coupes d'Europe, où à chaque fois le football est truffé de surprises, donc à voir.
Ça devient le favori de la compétition, puisque là, demi-finale, ils ont déjà joué contre Nottingham Forest.
Et l'autre demi-finale
c'est Braga-Fribourg.
Ah ouais, voilà. C'est le favori.
Donc Braga, équipe portugaise, tu parlais du Sporting, c'est vrai que pour un championnat comme le Portugal.
Et puis comme autre aussi favori, après bon, c'est vrai que aussi malheureusement l'Olympique Lyonnais aussi s'était fait sortir, qui eux aussi étaient vendus aussi comme les favoris de la compétition. Après leur,
par le Celta Vigo, c'est vrai que le Celta Vigo, justement, qui s'est fait éliminer par Fribourg. 3-0 à l'aller, 3-1 au retour. Donc
c'est pour ça que des fois le football n'a aucun sens. Un peu comme aussi malheureusement Bruges qui a sorti aussi l'OM 3-0, qui finalement s'est fait sortir directement dès les 16e. c'est des choses où il y a des exploits qui arrivent. Et puis finalement, un peu comme... ça fait penser à quelque chose de... En tant que supporter de l'OM, ça fait penser à par exemple l'OM qui gagne en Coupe de France contre le PSG, et puis qu'un mois plus tard, qui perd contre Annecy.
C'est la difficulté du football, il faut de la continuité.
Voilà, un petit mot sur la conférence et la qualification. Donc, on a parlé juste avant de Strasbourg, qui défiera le Rayo Vallecano en demi-finale avec match aller à Vallecas dans la banlieue de Madrid et le retour à la Meno, donc les 30 avril et 7 mai prochains.
Pourquoi pas une finale Strasbourg contre le Crystal Palace de Maxence Lacroix.
Oui, exactement. Ouais.
Et le Crystal Palace avec...
Originaire de...
Avec Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr, l'ancien Marseillais, l'attaquant sénégalais.
Oui, aussi. Voilà, on en retrouve partout.
Voilà. Et puis bon, c'est vrai qu'en phase régulière, il y avait eu déjà une confrontation entre Strasbourg et Crystal Palace. Voilà. Strasbourg s'était imposé 2-1 à la Meno, donc... Peut-être les grandes retrouvailles à l'occasion de cette finale qui aura lieu à Leipzig, à la Red Bull Arena, le 27 mai prochain.
Les Strasbourgeois ne seraient pas l'OM, si c'était ça.
Voilà, on a fait le tour concernant les championnats européens et les Coupes d'Europe. Voilà, on va se quitter avec... Merci David, merci Hugo.
Merci Thierry.
Ça a été un plaisir de partager cette heure à parler de football européen ensemble. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur Fréquence Mistral. Allez, bye bye à tous.